Chers frères et sœurs et chers amis, nous arrivons à l'étude numéro 63 concernant la série la plus importante qui concerne la prière. Nous aurons trois petits sujets. Premièrement, un avertissement pour l'heure actuelle. Deuxièmement, quel est le secret de recevoir des bénédictions financières? Troisièmement, le secret du pouvoir de l'Église primitive. Donc, premièrement, nous avons un avertissement pour l'heure actuelle. Cet avertissement de se lever et de prier n'était pas un avertissement destiné seulement aux disciples. L'avertissement est applicable aux chrétiens partout, dans toutes les générations, et surtout, c'est un applicable, elle est vraiment applicable, on peut bien le dire, et elle devrait l'être à l'heure actuelle. Lorsque Christ donna son grand discours au sujet des événements qui précéderaient son avènement, il avertit que les soucis de la vie feraient venir ce jour sur beaucoup de gens à l'improviste. Souvenons-nous de ça, à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habite sur la face de toute la terre. Saint Luc, chapitre 21, verset 35. Vous saurez que on essaye toujours, j'essaie toujours, de me référer au Saint Livre, la parole de Dieu. Il n'y a rien de tel pour nous éviter de dérailler, hein, pour dire des choses de notre cru. Bien sûr, il y aura des fois des versets qui sont, ou que je prends souvent, puisque je suis de langue allemande, de versions allemandes, comme la Elberfeld et d'autres, ou parfois aussi de la Bible anglaise, même The Amplified Bible, très intéressant. Donc, Christ nous donne un avertissement spécial à tous ceux qui vivraient en ce temps-là. Veillez donc, nous est-il dit, et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Saint Luc, chapitre 21, verset 36. Ainsi, Christ avertit que la seule manière par laquelle on pourrait échapper aux trappes des dernières heures de cette époque, c'est veiller et prier toujours. Et à tous ceux qui veillent, il a donné la grande promesse d'Apocalypse, chapitre 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, moi, l'Éternel, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, et ceci pour éprouver les habitants de la terre. L'anticipation du mal et l'action de l'éviter par un avertissement divin, c'est une leçon qui est souvent enseignée dans les Saintes Écritures. Au temps de Josué, les enfants d'Israël avaient remporté des victoires notables. Néanmoins, on peut dire, par une ruse, et comment? Vous savez qui c'est qui est le plus rusé? On les persuada de se liguer avec une certaine tribu des habitants de Canaan que Dieu avait pourtant défendu expressément. Des siècles plus tard, cette erreur a abouti à un jugement qui tomba sur les enfants d'Israël, 2 Samuel, chapitre 21, verset 1. Ils tombèrent dans un piège, tout simplement parce qu'ils avaient négligé de consulter l'Éternel, et ceci quand ils étaient dans le premier émoi de la victoire. Josué, chapitre 9, verset 14. Dans l'histoire de la course effrénée de David dans le désert, nous trouvons la main de Dieu le protégeant par beaucoup d'interventions providentielles. David a eu l'habitude de consulter le Seigneur avant de se préparer à partir. Il a compris qu'il fallait toujours prier avant. Après, ça peut être plus difficile ou même trop tard. Et une fois Saül, il vint assiéger Keila, la ville où il habita. David crut qu'il était en sûreté dans cette ville parce qu'il avait remporté une grande victoire pour ses gens. Mais lorsque il consulta l'Éternel à ce sujet, il a été averti que les habitants le trahiraient et qu'il devrait s'évader. 1 Samuel, chapitre 23, verset 5 jusqu'au verset 11. Néhémie était également un homme puissant à prier. Cependant, ses ennemis, oh, il y a toujours des ennemis, s'opposèrent à lui et tournèrent en ridicule son œuvre. Ça, c'est bien l'ennemi. Une fois, ils cherchèrent à endommager sa réputation avec ruse, envoyant secrètement un messager pour le persuader de se cacher d'un complot présumé à le tuer. Mais Dieu révéla que l'intrigue entière était totalement frauduleuse et s'était destinée à le déshonorer aux yeux du peuple. Néhémie, chapitre 6. Néhémie était un homme qui savait éviter les filets de l'ennemi parce qu'il savait avoir les prières exaucées. Et ainsi, nous apprenons un autre secret qui est important dans l'art de prier. Le dessein de Dieu pour nous tous, c'est que nous devrions anticiper la tentation et surtout l'éviter. Christ a enseigné les hommes à prier, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Nous devons veiller et prier constamment afin que nous ne tombions pas en tentation. Cela vaut beaucoup mieux que de demander à Dieu de nous délivrer du mal après que nous y sommes tombés. Celui qui veut faire transporter des montagnes, lui-même ne devrait pas perdre du temps en s'approchant des filets de l'ennemi. Chers amis, quel est le secret de recevoir des bénédictions financières? Il y en a peu qui pensent que cela tient debout. Et pourtant, la Bible dit « Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Saint Matthieu, chapitre 6, verset 3 à 4. Ces paroles de Christ étaient parlées avant qu'il donna sa grande leçon au sujet de la prière. Pourtant, en fait, elles font partie de cette leçon. l'action de donner a un rapport vital avec l'action de recevoir. Le dessein de Dieu que nous recevrions en abondance, c'est que nous devrions donner également en abondance. Et là, on a beaucoup de peine. Pour faire même plus forte la leçon, Jésus-Christ termina ses paroles sur la prière avec une admonition, carrément, contre l'amassement excessif de la richesse matérielle. Il dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Saint Matthieu chapitre 6, versets 19 à 20. Le secret de recevoir en abondance implique l'art de donner en abondance. Vous avez reçu gratuitement, donnez donc gratuitement, nous dit Jésus-Christ dans Saint Matthieu chapitre 10, verset 8. Cela marche en toutes les deux directions. Ceux qui donnent gratuitement recevront aussi gratuitement. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Saint Luc chapitre 6 verset 38. Nous devons prendre note que Dieu exauce souvent nos prières en touchant les cœurs des autres. Prenons George Müller. Il a maintenu ses grands orphelinats par les dons de ceux que Dieu avait émus de générosité. Les gens se sont étonnés par les choses que faisait Dieu pour Müller. Il était un homme qui avait la charge d'avoir soin de 2000 enfants. C'est carrément impensable. Et les gens ne pouvaient pas comprendre, et évidemment on les comprend, comment ils pouvaient avoir la tranquillité d'âme avec une telle responsabilité. Et si les fonds nécessaires manque par exemple d'arriver. Et si ce grand nombre d'enfants manquerait les moyens de vivre, l'œuvre de Dieu subirait-il des reproches? Mais ce dont il avait besoin arrivait toujours bien à temps. Bien que Müller ait supporté quelquefois des fortes épreuves, néanmoins, il recevait sans faute tout ce qui était nécessaire. L'Esprit de Dieu émouvait le cœur de quelqu'un toujours à point nommé. Et Müller recevait beaucoup, mais aussi il donnait beaucoup. Si Dieu le pourvoyait non seulement des moyens de soutenir les orphelins, mais aussi même de l'argent pour accomplir une œuvre mondiale des missions. C'est là qu'échouent beaucoup de gens. Ils voudraient que Dieu leur donnerait quelque chose, mais ils sont avares envers Dieu. Ils voudraient qu'il transporterait des montagnes pour eux, mais ils ont un esprit mesquin quand ils rendent quelque chose à Dieu. Cela est vrai en matière de recevoir la guérison. Ils savent que la guérison est libre, sans argent et sans aucun prix. Ainsi, ils abusent de Dieu. Quelques-uns ont dépensé beaucoup d'argent au traitement médical sans obtenir aucun résultat. Mais lorsque Dieu les guérit, ils ne rendent pas un dixième de ce qu'ils ont dépensé auparavant pour aider l'œuvre du Seigneur. En général, pourquoi les gens négligent-ils de rendre leur argent à Dieu? N'est-ce pas à cause de leur incroyance et de leur incertitude de l'avenir? Ils craignent peut-être que Dieu ne les abandonne au bout de quelque temps. Ne voudrait-il pas mieux accumuler des fonds de prévoyance aussi grands que possible? Or Dieu n'est pas contre l'action de mouvoir et de surtout de pourvoir, vous l'avez bien compris, à notre famille. C'est important que notre famille ne soit pas dans la dèche. Mais quand nous pourvoyons notre famille, nous devons faire la même chose pour l'œuvre de Dieu. Ceux qui ne se confient pas en Dieu pour leur propre sécurité n'ont pas de foi réelle que le Seigneur est un Dieu qui exauce la prière. Donc, la foi, c'est une action. C'est l'action de donner et c'est une action de la foi. Car donner, c'est l'assurance réelle de recevoir continuellement. Dans la vie de presque chaque homme de qui Dieu s'est servi beaucoup, il est venu un moment où il semblait que Dieu lui demande d'abandonner peut-être tout. Et ça peut arriver. Peut-être qu'il se mit dans une situation où il paraissait ne pas avoir de sécurité humaine. Peut-être qu'il quitta des affaires prospères ou une position responsable ou que quelqu'un bien-aimé était mort tout d'un coup. Abraham affronta une telle épreuve quand l'Éternel lui demanda d'offrir son fils Isaac en holocauste. Ceux qui veulent être les disciples de Jésus-Christ doivent parfois vouloir abandonner tout. Dieu veut savoir si un homme préfère vouloir les choses éternelles ou les choses temporelles. Chers amis, comment peut-on recevoir au centuple? Une telle épreuve vint au jeune homme riche. Il est venu à Jésus-Christ pour lui demander ce qu'il devait faire pour hériter la vie éternelle. Le Seigneur lui donna une réponse qui l'étonna vraiment. Christ, l'ayant regardé, l'aima et il lui dit « Cher ami, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Et ensuite, viens et suis-moi. » Saint Marc, chapitre 10, verset 21. Oui, nous trouvons que le jeune homme s'en alla, évidemment, pas trop joyeusement. Il était quand même assez triste, car voyez-vous, il avait des grands biens, pas seulement 2,50 €. On a donc prêché beaucoup de sermons au sujet de ce texte pour montrer qu'il aurait valu beaucoup mieux si le jeune homme avait par exemple suivi Jésus-Christ quand même, hein, malgré tout, et on peut dire ceci même, s'il serait mort, va savoir, en pauvreté. Mais une telle conclusion comme ça n'est pas nécessairement justifiable. Lorsque le jeune homme s'en alla, l'apôtre Pierre dit à Jésus, et ceci d'une façon un peu tristolet, « Voici nous aussi, cher maître, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Le Seigneur se tourna envers lui et il fit une observation extraordinaire. Une observation si extraordinaire que peu de gens la croient. Il dit, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères ou ses sœurs, ou sa mère ou son père, ou même ses terres, qui ne reçoivent au centuple. Et en plus, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Je dis en plus, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Saint Marc, chapitre 10, versets 29 et 30. Mais certainement, Christ ne dit pas qu'une personne qui, ayant quitté sa maison et ses terres, va recevoir forcément au centuple présentement, tout de suite, dans ce siècle. Par exemple, des maisons, des villas, des terres et tout le reste avec. Et sans compter tout cela, encore en plus, la vie éternelle dans le siècle à venir. Donc ce qui est important, c'est surtout savoir que nous recevrons dans la vie éternelle, dans le siècle à venir, beaucoup plus que nous pensons. Mais d'abord, un homme doit absolument passer l'épreuve qu'il désire vraiment, la vie éternelle, plus que toutes les maisons et toutes les terres du monde. Ça, c'est le problème. Il doit démontrer carrément sa foi par sa bonne disposition à donner à Dieu tout ce qu'il a, sans se soucier du résultat. Christ ne désapprouvait jamais les gens qui donnaient quand même ils avaient peu à donner. Car peu de temps après l'incident de la rencontre avec le jeune homme riche, Jésus-Christ a vu une veuve qui a mis deux petites pièces, un quart de sou, dans le tronc du temple. Au lieu de désapprouver son action, il la loua. Du reste, il fit remarquer qu'elle avait donné beaucoup plus qu'aucun d'eux, parce que elle avait donné, tenez-vous bien, tout ce qu'elle avait pour vivre. Saint Marc, chapitre 12, versets 41 à 44. C'était donc une grande action de la foi de sa part. Mais selon la loi de donner et de recevoir qu'enseignait Jésus-Christ, cela était une action, croyez-moi, tout ce qu'il y a de plus sage. Chers amis, quel était le secret du pouvoir de l'Église primitive? Eh bien, les chrétiens de l'Église primitive savaient obtenir l'exaucement de leurs prières. Une fois que l'apôtre Pierre était en prison et qu'il attendait son exécution, les prières des chrétiens firent apparaître un ange qui ouvrit les portes de la prison. Tous les jours, la forte puissance de Dieu était révélée dans l'Église à Jérusalem. Des signes, des prodiges et des miracles étaient vus très souvent. Des gens venaient des villes voisines pour être guéris. Et Saint Luc, il nous dit, tous étaient guéris. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 16. Après avoir lu cette écriture sainte, beaucoup de gens se demandent pourquoi ce même pouvoir n'est pas employé maintenant. En effet, on peut trouver la réponse au contexte de la même écriture sainte lorsque les chrétiens de l'Église primitive acceptèrent Christ Ils donnèrent tout, T-O-U-T, tout, leur maison et leur possession, afin que l'œuvre du Seigneur eut les moyens nécessaires pour la tâche d'évangéliser cette génération. Ils n'avaient rien en propre. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Oui, nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Ça, c'est à moi. Tu ne toucheras pas. Mais tout était en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur tous. Actes des apôtres, chapitre 4, versets 32 et 33. Évidemment, il n'y a pas partout des congrégations comme les Amish, n'est-ce pas, qui n'ont même pas le téléphone et surtout pas Internet et tout le reste. Ça, vous pouvez y croire. Enfin, tous ceux qui connaissent la Bible savent très bien que Jacob avait la foi, mais son péché habituel était malheureusement la convoitise. Oui, en effet, son idée de la religion le faisait penser à combien il pouvait, par exemple, exploiter cette religion. Il y en a qui le font beaucoup plus que nous pensons aujourd'hui. Enfin, à la fin, par suite de sa tromperie, il était obligé de quitter tout, absolument tout, et de chercher son salut en fuite. Pendant sa fuite, il avait l'occasion de réfléchir aux résultats de ses intrigues, et dans cette condition de l'esprit, il vint à Bethel, où il passa la nuit. Et là, à Bethel, il eut une vision d'une échelle qui montait vers le ciel. Il vit les anges de Dieu montant et descendant. Il entrevit un autre monde. Et cette épreuve changea totalement sa vie. Après s'être éveillé de sa vision, il vit donc que il devait faire à Dieu une promesse solennelle, qu'il lui donnerait toute la dîme de tout ce qu'il recevrait à l'avenir. Et Jacob a fait un vœu en disant « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour faire un monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Genèse chapitre 28, versets 20 à 22. Évidemment, personnellement, je n'oserais pas faire un deal pareil avec Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai peur, mais je crains trop Dieu pour faire une chose pareille. Mais bref, Dieu est vraiment bon. Et comment ? Pour avoir quand même donné tout ce qu'il fallait que Jacob demanda. Oui, Jacob avait de la difficulté à changer les lois de sa vie, mais Dieu l'aidait et le bénissait. La grande crise de sa vie arriva où Ésaü monta à cheval avec 400 hommes de guerre pour l'attaquer. Et cette nuit-là, chers amis, Jacob luttait avec Dieu. Et les choses se sont passées totalement autrement. Et Ésaü qui avait voulu le tuer, souvenez-vous, se jeta à son cou et même l'embrassa. Et ils pleurèrent ensemble. Ésaü avait trouvé que le frère fourbe, tordu, qu'il connaissait autrefois, avait totalement changé. Il n'était plus Jacob, mais, souvenez-vous, il est devenu Israël, un prince avec Dieu. Ça, c'est pas peu de choses. Chers amis, les citations bibliques dont nous venons de parler et qui racontent l'alliance de Jacob avec Dieu impressionnèrent Alexander Kreher, qui fut converti par l'évangéliste le docteur Moody. Oui, il a vu que Jacob n'avait rien quand il a fait cette promesse à Dieu, mais 20 ans plus tard, il rentra chez lui avec une grande prospérité. En juin 1902, Monsieur Kreher a fait un vœu très spécial qu'il mettrait de côté une certaine proportion de sa rente pour l'œuvre du Seigneur. Et à cette époque-là, il était pauvre et sa maison était même hypothéquée et il était même accablé en plus de dettes. Ça, c'est vraiment des situations qui sont terribles. Mais c'est là qu'on voit les miracles. La même année, avec peu de fonds, M. Kreher établit la maison de commerce qui était appelée The Kreher Glass Manufacturing Company, la compagnie Kreher pour la manufacture de verre. Pardon. Et cette manufacture fut une des plus grandes maisons de commerce qui vendait des jarres à fruits aux États-Unis. Les jarres étaient fabriquées pour Kreher à San Francisco. Or, à l'époque du fameux tremblement de terre que tout le monde se souvient, à San Francisco, cette maison de commerce faisait ses jarres à fruits. Monsieur Kreher, il avait mis presque tout l'argent qu'il possédait dans cette entreprise de jarres à fruits et ensuite il vint de ce fameux tremblement de terre. Est venu donc ce terrible tremblement de terre. Et ses amis lui ont dit « Alexandre, tu es un homme maintenant totalement ruiné. » Mais Alexandre a répondu « Oh, je ne le crois pas. Ou si je suis vraiment totalement ruiné, alors la Bible n'est pas tellement la vérité. Je sais que Dieu ne manquera pas à ses promesses. » Aussi, il télégraphia à San Francisco et il reçut la réponse suivante. « Votre verrerie est au cœur du feu et du tremblement de terre et tout est absolument détruit sans doute. La chaleur est si intense que nous ne pouvons pas nous renseigner sur tout cela pendant quelques jours. » Quel terrible temps d'épreuve c'était cela. Mais sa foi dans le Seigneur ne vacillait jamais. Il croyait en Malachie, chapitre 3, verset 11. Oui, il croyait pas en Malachie, il croyait en l'Éternel, le Dieu de Malachie, chapitre 3, verset 11, excusez-moi. Et il se tint sur cette promesse. Il était resté debout avec conviction sur cette promesse. Il resta calme et non inquiet du tout. Environ une semaine après le tremblement de terre et le feu terrible, un deuxième télégramme arriva qui dit « Tout autour de 2 kilomètres, même 2,5 kilomètres, est-il dit, de tous les côtés même, de votre fameuse verrerie, a totalement brûlé. Mais, miracle, votre verrerie est sauvée miraculeusement. Elle est debout. » Monsieur Kerr alla donc immédiatement par le train à San Francisco, et cette usine était un bâtiment à 2 étages, construite en plus en bois, figurez-vous, c'est bon pour le feu, avec des réservoirs où on faisait fondre le verre. Et ces réservoirs étaient toujours à 2500 degrés de chaleur et le mazout servait de combustible. Donc, ce bâtiment était le plus inflammable possible à San Francisco. Or, le feu avait fait des ravages de tous les côtés de cette verrerie. Il s'était avancé à la palissade qui entourait le bâtiment et avait jailli autour et par-dessus d'elle. Il l'avait même roussi un peu, et alors les flammes allèrent au-delà du bâtiment en brûlant tout sur leur chemin. Cependant, pas même la palissade était brûlée, ni les bâtiments, et pas une seule, puisque c'est une verrerie, ni le bâtiment, et pas une seule jarre de verre. Ça, c'était extraordinaire et incroyable. Aucune jarre de verre était même fêlée par ce terrible tremblement de terre ou par le feu. Jean l'apôtre, en la première épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 22, nous dit « Quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui, parce que nous gardons quoi ? Nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Le contexte de ce verset a un rapport à l'action de donner. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyons son frère, sa sœur, dans le besoin, il lui fera certainement quelque chose de bon. Il va pas fermer ses entrailles, pas du tout. Mais comment, voyez-vous, comment le Dieu d'amour pourrait-il demeurer en lui s'il ferme son cœur? Quand nous voyons les millions de gens qui meurent sans Christ, et ceci dans les pays païens, et nous refusons de donner libéralement pour la grande œuvre de les convertir par la bonne nouvelle de la délivrance, pouvons-nous espérer toujours avoir l'exaucement de nos prières? La loi de donner et de recevoir est absolument exprimée tout à fait clairement et si fortement que dans les versets bien connus en Malachie chapitre 3 verset 10, cela va de soi, nous pourrions en tirer une bonne leçon. Il est dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes » afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et mettez-moi de la sorte à l'épreuve, avez-vous entendu ? Mais mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. La bénédiction en abondance ne veut pas dire la villa avec la piscine et puis peut-être encore deux chevaux de course et une Lamborghini, évidemment. La loi de donner et de recevoir est une loi qui joue un grand rôle dans les vies des hommes et des femmes. C'est une loi qui est aussi invariable en opération que la loi de gravitation. Voulez-vous faire exaucer votre prière? Voulez-vous recevoir en abondance des choses de Dieu? Voulez-vous des bénédictions financières? Donc, donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Saint Luc chapitre 6, verset 38. Moi, quand j'étais plus jeune et que j'entendais cela, je me moquais carrément et je portais des jugements très peu sympathiques. Oui, plutôt terrible. Mais la vie m'a fait changer totalement d'avis et j'ai compris que ça avait été grave de se moquer de ce genre de verset. Ensuite, la Bible nous dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous lierez, plutôt délierez sur la terre. Donc, je le répète, elle dit, la Bible, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié. Lié où? Dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Et je vous dis encore que si deux d'entre vous pourraient s'accorder, ça serait pas mal, sur la terre, pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Saint Matthieu, chapitre 18, versets 18 et 19. Et maintenant, chers amis, nous venons à un autre secret qui est très important dans l'art de prier afin de changer quelque chose. C'est le pouvoir de l'accord entre vous et moi, de l'accord entre nous. Car au chapitre 18 de Saint Matthieu, le Seigneur fait mention de son Église. Il traite de la matière de l'unité de ses membres, l'unité des membres de l'Assemblée, de la congrégation, de l'Église, et il donne des instructions spéciales pour conserver cette unité. Verset 15 jusqu'au verset 17, je crois, on a parlé du chapitre 18 de Saint Matthieu. Ensuite, son enseignement parvient à une multiplication quand il montre le grand pouvoir qui est disponible dès que les hommes et les femmes prient ensemble, avec un seul but et une unité d'intention. Oui, en effet, la croissance décuplée du pouvoir de prier ensemble est une grande puissance. La prière d'une seule personne peut être puissante, mais on ne peut pas la comparer des résultats qui sont possibles quand deux ou plus que deux personnes pourraient prier, par exemple, d'un commun accord. Il y a beaucoup de force en unité, et dans le monde spirituel, cette force, cette puissance, elle croît dans le rapport de l'intérêt composé. Josué, par exemple, a dit aux enfants d'Israël qu'un seul d'entre vous pouvait poursuivre 1000 personnes. Un seul avait poursuivi 1000. Et ceci dans le chapitre 23 de Josué, au verset 10. Mais voilà que Moïse, lui, y déclare que deux mettraient en fuite 10 000. 10 000. Et partout où deux personnes sont d'accord dans la prière, eh bien le pouvoir des deux croît 10 fois, peut donc croître 10 fois au-dessus du pouvoir de l'un qui serait tout seul. Donc, chers amis, dans le grand dessein de Dieu pour son Église, il prend en considération que ses membres, en travaillant ensemble, peuvent accomplir beaucoup plus que les individus qui travaillent indépendamment, chacun selon son propre goût particulier. Indépendamment, évidemment, si on a 30 à 40 ans, il faut éviter. C'est peut-être un peu différent pour quelqu'un comme moi qui en a 84. C'est pas pareil, c'est déjà un miracle de tenir debout. Merci Seigneur. Si l'Église va accomplir son grand dessein, ses membres individuels doivent opérer en rapport l'un avec l'autre. Et quand les membres du corps de Christ prient ensemble d'un commun accord absolu, alors leurs prières deviennent irrésistibles et feront même transporter, comme on le dit, des montagnes devant eux. Un peu de temps avant l'ascension de Christ au ciel, hein, donc un peu avant l'ascension de Christ au ciel, notre Seigneur recommanda à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Car Jean le Baptiste, lui, il a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 4 et 5. Par obéissance à ce commandement, ils retournèrent à Jérusalem, et l'Écriture sainte nous dit « Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Ils priaient ensemble d'un commun accord, et il en résulta que leur prière émouvait le ciel. » Alléluia. Et le jour de Pentecôte, la puissance du Saint-Esprit descendit sur l'Église et il commença un réveil qui a secoué le monde entier. L'Église primitive était dans une telle unité que temporairement l'égoïsme humain que nous avons tous paraissait avoir presque disparu. Les gens partageaient leurs possessions et avaient tout en commun. Évidemment, aujourd'hui, ça va être difficile. Que de pouvoir il y avait dans leurs prières. Et lorsque la persécution violente tomba sur eux, l'Écriture sainte nous raconte, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 24 et 31. Donc, au lieu de diminuer le réveil qui était reçu, une nouvelle impulsion et des miracles de guérison avaient lieu sur une si grande échelle que la nation s'était carrément étonnée. Étonnée. Souvenez-vous, la prière unie ouvrit même la prison. Eh oui, peut-être l'illustration la plus dramatique du pouvoir de l'intercession unie, comme c'est raconté dans le livre des Actes des Apôtres, se trouve au chapitre 12. Car en ce temps-là, la persécution des chrétiens était parvenue au comble d'intensité. Le roi Hérode avait pris Jacques, frère de Jean, l'avait fait prisonnier et l'avait même tué par l'épée. L'apôtre Pierre aussi était mis aux arrêts et apparemment, absolument le même destin allait donc être bientôt exécuté. Mais voilà, dans l'intervalle, une compagnie des soldats de prière s'est assemblée chez la mère de Saint-Marc, de l'apôtre Marc, pour faire des prières et des supplications continuelles pour l'apôtre Pierre. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. C'est évident que la foi de cette compagnie n'était pas à sa plus haute puissance, mais les nouvelles étonnantes du meurtre d'un des apôtres, c'était Jacques, les avaient évidemment fait trembler. On aurait tremblé également. Il est peu probable, vraiment peu probable, à ce même moment, que quelqu'un d'entre eux aurait eu assez de foi pour le miracle de délivrance qui fut nécessaire pour l'apôtre Pierre. Ce manque de la foi est évident quand l'apôtre Pierre, après avoir échappé de la prison, vint à leur porte et essaya d'y entrer. Personne ne croyait que c'était possible que cela puisse être vraiment Pierre, l'apôtre, en chair et en os. Si quelqu'un était là, oui, bon, pourquoi pas, qui lui ressemble, par exemple, cela pouvait être seulement un ange, personne d'autre. Cependant, malgré ce manque de la foi, eh bien, voyez-vous, leurs prières qui étaient unies, rappelons-nous, pouvaient quand même émouvoir le ciel. Et l'unité de leur foi, bien que chancelante, a atteint une puissance, une force, au-delà de ce que posséda chacun d'eux à ce même moment. Et par suite de leur prière, les desseins d'Hérode étaient, on le comprend bien, assez frustrés. Dieu envoya du ciel un ange qui ouvrit les portes de la prison et amena l'apôtre en sûreté. Et c'est là un exemple de comment la prière qui est unie peut surmonter toutes les crises sérieuses qu'affronte l'Église. Le pouvoir de l'unité est révélé très fortement dans la prière de Jésus-Christ pour ses disciples afin qu'ils soient un. Il devait donner à l'Église la tâche solennelle d'évangéliser le monde entier. Il devait dire aux hommes partout que Jésus était le Christ que le Père avait envoyé dans le monde. Mais comment le monde pouvait-il être persuadé que Jésus-Christ était le Fils de Dieu? La réponse était que si l'Église présentait un front uni, alors si les membres individuels voulaient bien subordonner leurs propres desseins et leurs propres ambitions, et ceci à l'avantage de tout le monde, s'ils montreraient au monde qu'ils s'aimaient vraiment d'un accord total l'un l'autre, s'ils prieraient ensemble d'un commun accord, et s'ils feraient toutes ces choses, alors certainement, plus que certainement, le monde pourrait enfin croire. Et À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Saint Jean, chapitre 13, verset 35. Jésus-Christ savait que si les disciples pouvaient surmonter leurs propres ambitions personnelles, afin que tous dans l'Église puissent être un, donc là, le monde croirait que Jésus-Christ était en effet le Christ. « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, être un dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit, pour que le monde puisse croire que tu m'as envoyé. » Saint Jean, chapitre 17, verset 21. Si deux personnes peuvent mettre en fuite, par exemple, 10 000, combien sera accompli si, par exemple, tous les chrétiens deviendront unis? Alors là, il ne faudrait que peu de temps avant que leurs efforts qui sont unis aboutiraient à l'évangélisation du monde. Si les peuples des nations commençaient vraiment à prier, oui, combien de leurs grands problèmes seraient résolus dans très peu de temps? La prière unie peut même sauver une nation. Et oui, voyons cela un peu de plus près. Le 10 mai 1940, le Blitzkrieg, qui était une guerre de nazis, était déclenché contre les Pays-Bas. Et au bout de la deuxième semaine en mai, les défenses françaises à Sedan et sur la Meuse étaient envahies. Et les chars allemands avancèrent sans aucune opposition à travers de la Belgique et de la France. Le lundi 29 mai, il ne restait aux Anglais que le port de Dunkerque et il semblait que la Grande-Bretagne était sur le point de subir la défaite la plus terrible dans son histoire. Or, ce jour-là, le communiqué allemand déclara « L'armée britannique est cernée. Nos troupes sont sur le point de l'anéantir. » Le gouvernement et le peuple britannique n'espéraient que gagner un peu de temps pour mieux pouvoir se défendre. Ils ne s'attendaient pas du tout à pouvoir sauver tous, à pouvoir sauver peut-être que 20 ou 30 000 soldats au plus de cette débâcle terrible. Et le 26 mai, Sa Majesté le roi Georges appela le peuple à une journée de prière. Quelle bonne inspiration de l'Esprit Saint! Et Dieu vint à la défense de son peuple en dirigeant le temps, on peut dire les éléments. Et le Seigneur a fait élever dans la région autour de Dunkerque un fort orage qui sauva les armées exténuées de tous ces Messerschmitt, des avions nazis, et ensuite il envoya un grand calme sur la mer. Et ses troupes pouvaient enfin se mouvoir. On pouvait se servir même de petits bateaux côtiers pour transporter les troupes en Angleterre des plages de Dunkerque. Et le lendemain, le journal anglais The Daily Sketch déclara ceci: « Rien de tel n'est jamais arrivé auparavant. De tous côtés, on parlait carrément d'un miracle. Oui, tous les soldats, ainsi que les civils, ont été donc mentionnés de ce grand jour de la prière. Et les deux conditions atmosphériques miraculeuses qui étaient si extraordinaires qu'on pouvait à peine le croire, ce fameux orage et ensuite ce grand calme par lequel les forces purent sauver 10 fois, carrément 10 fois, le nombre de soldats que même les gens les plus optimistes n'auraient pu imaginer. Même de grands contingents de personnel allié qui étaient non combattants, eh bien, eux aussi étaient sauvés de la région de Dunkerque. Voyez-vous, peut-être n'y avait-il pas de personne particulière en Angleterre qui avait la foi pour un tel miracle. Dans l'ordre des choses, il n'y avait guère d'espérance. Il semblait que dans peu de jours, des milliers de garçons anglais seraient morts ou jetés dans les prisons nazies. Mais en Angleterre, il y avait beaucoup de chrétiens, heureusement, qui avaient coutume de prier. Et il y avait aussi un roi qui croyait en la prière et qui avait la foi d'appeler la nation carrément à la prière dans l'heure de la détresse. Dieu exauça donc leur prière et la nation était sauvée. Gloire soit rendue à Dieu. Et cette nuit, à Gethsémané, les paroles de Jésus-Christ à ses disciples révèlent le pouvoir de la prière qui est unie. On peut supposer que Christ n'avait jamais besoin d'assistance dans la prière, mais qu'il savait, lui, il avait l'art de prier, et même de prier si parfaitement que le secours d'une autre personne n'était pas tellement nécessaire, pas tellement importante. Et pourtant, voyez-vous, lorsque le Seigneur éprouvait de la tristesse et des angoisses dans le jardin, et son âme était triste, et on peut le comprendre, triste jusqu'à la mort, il demanda à ses disciples de veiller et de prier avec lui. Hélas, quand il les cherchait, il trouva qu'ils s'étaient endormis. Ils dormaient tranquillement. Oh là là, je me pose beaucoup de questions à ce sujet, à mon sujet. Eh oui, il ne faut pas avoir peur de se voir peut-être chancelant, ou même pire. Alors Jésus-Christ leur dit, avec un peu de reproche, on le comprend, « Vous n'avez donc pas pu veiller une seule heure avec moi. N'avez-vous pas honte ? Moi, évidemment, j'aurais eu terriblement honte. » Veillez donc et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et cette nuit-là, les paroles de Christ aux disciples, parce qu'ils manquèrent de veiller avec lui, ont donné à réfléchir. Ce sont peut-être quelques-uns des témoignages les plus remarquables du pouvoir de la prière unie qu'on pourrait donner. Quoique le pouvoir de Christ dans la prière fût très grand, voyez-vous, la signification vraiment claire de ces paroles, c'est que les prières des autres n'auraient aidé, oui, au contraire, ils auraient vraiment été une grande aide dans cette heure terriblement grave. On a bien compris que les prières de ses disciples auraient été une très grande aide. Et le pouvoir d'un commun accord dans la prière est la voie biblique, carrément, de résoudre les problèmes qui se trouvent dans l'Église. Par l'accord complet dans la prière, les puissances des ténèbres peuvent être liées carrément d'une telle manière que leurs mauvais desseins peuvent être vaincus totalement. Avant de terminer par la prière, rappelez-vous ce que Jésus-Christ a dit. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel également. Je vous dis encore que si deux d'entre vous pourraient s'accorder sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera refusée. Non, vous avez bien compris que j'ai fait exprès de vous réveiller un peu, parce que tout de même, c'est pas des très courts messages, même pour quelqu'un de mon âge. Donc, je répète, il a dit, je vous dis que si deux d'entre vous pourraient vraiment s'accorder sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Saint Matthieu, chapitre 18, versets 18 et 19. Voici donc un autre grand secret de la prière. Un seul en poursuivra mille, rappelez-vous. Mais deux, selon Moïse, mettront en fuite 10 000. Il y a donc un grand pouvoir dans l'accord en commun parmi les chrétiens. Lorsque des problèmes spéciaux se présentent, choisissez une personne. Ça peut être une sœur en Christ, ça peut être un frère, même un frère qui n'a pas l'air très important. Ça vaudra peut-être même mieux, qui sera d'accord avec vous sur une chose particulière. Comme vous pouvez vous accorder, eh bien vous pouvez tenir pour certains que le Seigneur exaucera vos prières. Alléluia. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, pardonnez-moi, tout ce bruit autour de moi, vous pourrez donc maintenant prier calmement avec moi. Et j'espère qu'il n'y aura plus de bruit qui va nous en empêcher. Je me souviens d'un vieux cantique. Ah oui, il y en avait des beaux. Ce vieux cantique disait « Sainte Sion, ô patrie éternelle, palais sacré qu'habite le grand roi, où doit sans fin régner l'âme fidèle? Quoi de plus doux que de penser à toi? Ô mon Sauveur, qui par ton sacrifice pour tout croyant ouvrit ces nouveaux cieux, viens, couvre-moi de ta sainte justice. Et vers Sion, élève tous nos vœux. Prions. Ô notre Dieu, élève toi-même nos cœurs et nos pensées vers ces choses invisibles qui sont éternelles. Donne-nous de nous affectionner aux choses qui sont en haut et non point à celles qui sont sur la terre. Détache nos cœurs de tout ce qui est terrestre et passager, et que nous soyons fondés et enracinés en toi, qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, que nous sommes heureux de te connaître, Seigneur. Quelle grâce tu nous as fait de te révéler à nous. Nous t'invoquons pour tous ceux dont le cœur appartient encore au monde et qui poursuivent malheureusement des choses qui n'ont que l'apparence, surtout pour les membres de nos familles qui ne te connaissent point encore. Tourne leur cœur vers toi, auteur et source, oui, source de tout bien. Révèle-toi à eux comme étant leur Dieu sauveur, seul capable de satisfaire leur cœur et de pacifier leur conscience. Rends-nous fidèles envers eux. Oh oui, Seigneur, fidèles dans notre témoignage, fidèles dans notre vie de tous les jours, afin qu'elle soit elle-même un témoignage. Nous te prions aussi pour les affligés qui souffrent loin de toi, sans Dieu et sans aucune espérance. Seigneur Jésus, approche-toi d'eux, sers-toi de leur souffrance même pour les appeler à toi. Montre-leur qu'il n'y a aucune proportion entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui doit être manifestée, et que ta présence et ton amour peuvent adoucir la peine la plus amère. Exauce-nous, Seigneur, pour l'amour de tes compassions. Amen. Et chers amis, merci encore pour l'intérêt que vous continuez de porter à ces études. Croyez-moi, même que c'est parfois répétitif et peut-être barbant, ennuyeux, mais cela va vous aider. La prière va vous aider dans toute votre vie et vous pourrez être vous au bénéfice de choses que vous n'aurez jamais cru et pensé auparavant. À bientôt à nouveau, mes très chers amis. Au revoir.